Eh bien, bonjour à toutes et à tous. René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM, campusville.com. Comme chaque mercredi, 16h, 16h30, c'est une émission consacrée à l'université Campus Hill Info. Aujourd'hui, nous allons parler de recherche et aussi peut-être de sociologie, pourquoi pas. Nous allons parler de lobbying, le lobbying en France, avec Monsieur Guillaume Courty, qui est auteur d'un livre intitulé justement « Le lobbying en France » et qui est professeur à la faculté donc de droit, Sciences Po Lille, Université de Lille. Bonjour Monsieur Courty.
Bonjour Monsieur Lavergne.
Alors, donc, vous avez depuis... plusieurs années consacré vos recherches à un phénomène qui s'est développé, j'allais dire récemment, si on peut dire que 15 ans c'est récent, mais qui prend une ampleur peut-être importante, sinon dangereuse.
Alors j'ai en effet enquêté sur ce qu'on appelle le lobbying. Je vais peut-être préciser ce qu'on entend par cette expression. À partir des années 90, parce que par un curieux hasard historique, j'ai fini ma thèse en 93, au moment où les premiers lobbyistes français créaient leur association professionnelle. Et comme j'ai fait ma thèse sur l'action en politique des fédérations de transporteurs, j'ai immédiatement été attentif à ces consultants qui disaient faire pour leurs clients ce que j'avais observé dans des fédérations professionnelles en interne. Et ce qu'ils disaient faire, c'est ce qu'ils appelaient du lobbying, à savoir intervenir de façon professionnelle auprès des pouvoirs publics avec un enjeu qui est d'essayer de modifier les dispositifs de politique publique à travers la loi ou le règlement, mais très très largement la loi, pour soit leurs clients, soit leur organisation. En 93, c'était embryonnaire, c'était le tout début, et j'ai commencé à suivre l'activité de ces personnes, au départ par curiosité, puis par obligation professionnelle, puisque j'ai enseigné très tôt des modules de formation à la sociologie du lobbying, pour essayer d'apprendre à enquêter sur ces milieux, et pour former aussi des futurs lobbyistes, lorsqu'on a créé des masters au tout début des années 2000. Donc voilà, le premier temps est un temps de curiosité, et cette curiosité, au bout de 15 ans, j'ai voulu arriver au bout et pouvoir savoir ce que je pouvais offrir aux citoyens, aux étudiants, à mes collègues, comme résultat de ces 15 ans d'immersion dans les métiers du lobbying, puisque en faisant ces enquêtes et ces formations, j'ai été amené à les côtoyer, les rencontrer, à discuter avec eux sur l'éthique, sur comment est-ce qu'on peut former, sur etc. Énormément de sujets. Et c'est une position, je pense, assez rare, qui a certainement aidé à ma recherche. Et j'ai essayé aussi d'en neutraliser les biais pour pas ne me faire soit instrumentaliser, soit ne pas croire que la vision que j'avais grâce à cette entrée dans le milieu était la seule vision qu'on pouvait avoir de ce milieu. Voilà le raccourci historique. Ça signifie également, quand même, précaution, que le lobbying existait auparavant, simplement avec deux nuances importantes. La première nuance, c'est qu'il n'y avait pas de consultants spécialisés qui exerçaient ce métier pour leurs clients avant les années 90. Et deuxième nuance, le mot lobbying était présent dans la vie politique française, mais il n'était pas présent avec la même intensité et la même charge dramatique. On le connaît dès la 4e République, notamment, il est aussi utilisé médiatiquement, mais il n'a pas la même résonance et la même capacité dramaturgique que depuis les années 2000, où la presse l'utilise vraiment énormément et où des ONG sont devenues des spécialistes de la question du lobbying pour le réglementer. Des ONG, par exemple, Transparency France, Regards Citoyens ou d'autres. Donc avec ces deux nuances, un, ça n'était pas un métier de conseil, et deux, il n'y avait pas cette charge dramatique. Le lobbying existe depuis plus longtemps que cela. On le connaît en France depuis la fin des années 1870. On connaît la réalité américaine en France dès ces années-là. Et on a des pratiques en France qui sont très, très comparables. Je vous donnerai les trois catégories de pratiques qui rentrent dans ce qu'on appelle le lobbying. Des pratiques électorales, prendre contact avec les candidats, leur faire passer des mémos, essayer de les faire s'engager électoralement. Des pratiques parlementaires, essayer de modifier la loi, transmettre des amendements, convaincre les parlementaires qu'il faut reprendre la rédaction, changer la loi, ne pas faire passer une loi. Et troisième catégorie de pratiques, des pratiques que l'on peut appeler de mondanité ou plutôt de rituel dans la vie politique. Déjeuner, se rencontrer, partager des moments de sociabilité, de convivialité, inviter. Et ces trois catégories sont aujourd'hui largement en débat dans la société française à travers une loi qui a été un moment de débat, qui est la loi Sapin, qui est entrée en vigueur en 2017 et qui est la première loi qui se saisit du lobbying en France. Et on n'a pas épuisé le sujet, ni nos discussions civiques et éthiques autour des pratiques qu'on considère comme normales, puisque le lobbying est autorisé de tout temps. C'est pour ça que j'ai peut-être pris un peu une perspective de longue durée pour expliquer ce qu'il était devenu, un métier du conseil, mais il a toujours été légal, autorisé, même si on a une énorme charge dramatique aujourd'hui et des associations telles que Lobbying égale corruption, qui est une association très très fréquemment faite et qui est largement infondée chez ces professionnels, ou d'autres qui visent à considérer que certains acteurs ont une influence indue ou une influence beaucoup plus importante que les autres. L'équation autre que lobbying-corruption qu'on a dans la tête, c'est lobbying égale milieu d'affaires et donc égale une plus grande écoute des pouvoirs publics à l'égard des milieux d'affaires. Cette équation doit être vérifiée lors des enquêtes et ne peut pas être plaquée comme ça, comme une évidence systématiquement.
Donc, qu'est-ce qui peut justifier au départ le lobbying ? Et le lobbying, c'est l'affaire de qui au départ ? Et est-ce que les groupes sociaux, hein, pas seulement économiques, peuvent également utiliser ce lobbying de manière équilibrée avec les autres ?
Alors, il y a deux formes d'exercice du lobbying. Il y a une forme par les métiers du conseil, des cabinets de consultants spécialisés. On appelle lobbying ou affaires publiques, pour prendre les deux expressions les plus fréquemment utilisées, qui offrent des prestations. Dans cet exercice du lobbying, évidemment, il y a un coût économique et toutes les organisations ne peuvent pas passer par des cabinets conseils du fait du droit d'entrée dans la prestation. Maintenant, il y a une autre forme de lobbying qui est la forme que l'on appelle interne. On a à l'intérieur de son organisation, association, entreprise, une personne qui est dédiée aux relations avec les pouvoirs publics. Et cette personne est formée, habituée à ce type de métier. Et ce que j'ai observé dans mon enquête qui a suivi 700 lobbyistes pendant 15 ans, c'est qu'il y a un système de mobilité entre ces postes et les lobbyistes tournent. Ce n'est pas un métier figé. Alors, ils tournent principalement avec cet énorme aimant qu'est la vie politique. Ils tournent lors des alternances, ils vont en cabinet ministériel, ils passent par le Parlement. Le Premier ministre que nous avons est un ancien directeur des affaires publiques d'une entreprise. Ce jeu, vous voyez, de mobilité, de circulation, pour reprendre une très vieille expression de sociologue, cette circulation des élites permet aux lobbyistes d'offrir leurs compétences à des entreprises, des ONG, des associations, des syndicats. Et le coût ici, c'est de pouvoir les rémunérer. Donc, on a un coût qui est moindre pour le lobbying quand il est utilisé en interne. C'est un coût de salariat. Et évidemment, vous allez dire, mais les plus diplômés sont les moins accessibles pour les ONG les plus démunis. Ce qui est tout à fait vrai. Mais on a aussi des phénomènes de formation sur le tas. C'est-à-dire que beaucoup d'organisations ont formé en interne leurs lobbyistes avec des bricolages, les moyens du bord. Ils se sont fait leur propre background et ils ont découvert ces façons d'interagir avec les pouvoirs publics ces 20 dernières années. Ce qui fait que c'est assez peut-être surprenant, mais les pratiques de lobbying sont relativement homogènes, même s'il y a des gros écarts dont on discutera peut-être, c'est-à-dire des oppositions professionnelles et des pratiques assez clivées. Mais ces pratiques qui sont clivées ne clivent pas les plus pauvres, entre guillemets, et les plus riches, entre guillemets.
Quand on parle de lobbying, souvent la première image qui nous vient à l'esprit, c'est ces gens qui sont dans leur cabinet quasiment chez eux au Parlement européen. C'est quelque chose qui a changé la donne ?
Alors, ça a été très longtemps une croyance dans mon métier de chercheur. C'est-à-dire qu'on croyait en effet qu'il y avait un effet d'entraînement de l'Union européenne sur ce qui se passait à Paris. Et je fais partie des chercheurs qui, à la fois, minorent énormément l'effet de Bruxelles sur la vie politique française et qui, aujourd'hui même, montrent que la France est en train d'avoir un effet d'impulsion. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'histoire pour montrer comment est-ce qu'on a cru pendant un certain temps qu'il y avait un effet d'entraînement, un effet de déversoir. Vous voyez, la politique bruxelloise nous transformait, nous néolibéralisait, etc., en nous impliquant le lobbying. Et je ferai un petit focus sur la loi Sapin pour expliquer comment est-ce que, par un effet de retournement historique assez étonnant, on a pris maintenant la pole position en Europe sur le terrain du lobbying. Alors, on a cru longtemps, pour des raisons un petit peu de recherche rapidement faites. On a cru parce que l'équipe de Jacques Delors a fait un coup de bluff absolument magistral en 1992. Ce coup de bluff, ça a été une communication de la Commission européenne sur les lobbyistes pour dire que la Commission était désormais l'institution phare du système parce qu'elle était concernée par 3000 groupes d'intérêt, 15 000 lobbyistes. Ce chiffre, vous le retrouvez encore aujourd'hui tel quel dans énormément de papiers. Et c'est vraiment un coup de bluff, un coup de com de la Commission. Et si on le décrypte, ce coup de com, il s'énonce ainsi. Nous sommes, nous, la Commission, l'institution aujourd'hui la plus courtisée, recherchée, pressée. Et donc, on a la main. Et le coup de bluff est à la fois en interne, il est contre les autres institutions pour dire, nous, la Commission, nous sommes en train de relancer l'Europe. Il est aussi en externe pour dire « Bruxelles est plus important que Washington ». Et c'est un coup de bluff qui a remarquablement marché. Nous-mêmes, les chercheurs, nous y avons très très longtemps cru, parce qu'il était difficile de savoir réellement ce qu'étaient les lobbyistes, en termes de quantité, en termes d'activité. Bon, ça a duré, ce coup de bluff. Ça a été, considéré même comme une évidence quand les réformes des traités européens ont montré à chaque fois que le lobbying augmentait en quantité et en intensité à chaque fois que l'Europe s'élargissait et obtenait de nouveaux domaines de compétences. Aujourd'hui, on peut faire le bilan et on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas eu d'effet d'impulsion par exemple, le fait que les carrières des lobbyistes français sont assez marginalement européanisées. On a deux systèmes politiques qui sont assez étanches. Et donc, s'il y avait vraiment eu un déversoir, on aurait eu énormément de lobbyistes qui, dans ce phénomène circulatoire, circulaient entre Bruxelles et Paris. Ça circule, mais ça circule de façon vraiment marginale, statistiquement. On aurait pu aussi s'attendre à ce que les cabinets conseils soient à deux volets, un volet national, un volet européen. Ça existe, là aussi, mais c'est assez rare. Et donc, là où je dénie, si vous voulez, cette européanisation, c'est en soulignant que ça a été deux histoires parallèles qui se sont inspirées. Ça a eu un énorme effet, mais dans les têtes, pour pousser à la réglementation. Mais ça n'est pas Bruxelles qui, par incitation ou engouement des nationaux, a fait le lobbying en France. La loi Sapin, maintenant, elle a bizarrement mis la France en pole position. Et on a un effet de retournement, c'est Bruxelles qui se sert de ce qui s'est passé en France pour se dire qu'il y a maintenant quelque chose à faire.
Est-ce qu'on peut préciser dans la loi Sapin les principales mesures justement qui concernent
Tout à fait. Les réglementations du lobbying reposent sur des dispositifs qui sont assez fréquemment comparables ou analogues d'un système politique à l'autre. Le dispositif central, c'est ce qu'on appelle un registre. C'est un enregistrement des lobbyistes sur... Alors aujourd'hui, ce sont des sites internet. Autrefois, c'était des volumes papier qui étaient publiés et qui obligent la déclaration de certaines mentions qui sont considérées comme obligatoires. Déjà, le statut de son activité, le nom de la personne qui est censée entrer dans les sites parlementaires, les clients, les sommes dépensées et parfois les centres d'intérêt sur lesquels ils sont intervenus. En fonction des systèmes politiques, ce mécanisme d'enregistrement rend public et disponible pour les citoyens l'état des forces qui se sont mobilisées sur un texte pour essayer de le faire changer, certains ayant réussi, d'autres ayant échoué. Et le lobbying, contrairement à ce qu'on pense, est plus une bataille perdue qu'une bataille réussie, parce qu'on arrive quand même assez difficilement à faire plier les pouvoirs publics. Ça, c'est le dispositif central que la loi Sapin 2 a créé. Il y en avait jusque-là deux dispositifs qui avaient été créés dès 2009 en France, qui étaient internes aux assemblées, un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale, et qui étaient des registres, là aussi, qui étaient sur Internet et qui était très très peu visible. Il y avait quelques papiers dans la presse lorsque un journaliste voulait savoir ce qu'étaient les lobbyistes. Le registre actuel s'appelle Agora. Il est en cours d'élaboration, même si la loi a déjà été votée. C'est extraordinairement complexe. Les mécanismes nécessitent que des personnes enregistrent des mentions, tiennent à jour un carnet de bord de leur activité. Et pour l'instant, il n'y a pas encore, de produits finis de ces registres. Si vous voulez voir des produits finis aux États-Unis, au Canada ou à Bruxelles, il suffit de taper sur un navigateur de recherche, registre des représentants d'intérêts à Bruxelles ou Washington, et vous allez trouver tout de suite ces registres avec des camemberts ou des histogrammes qui vous présentent les différentes organisations qui sont intervenues auprès des pouvoirs publics.
Donc le lobbyiste type, c'est quelqu'un de réseau, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses, c'est quelqu'un qui est formé dans quelle université ?
Alors là, on touche au cœur du sujet et au cœur peut-être des polémiques professionnelles. Il y a, mettons, trois grandes ressources pour faire du lobbying. La ressource du carnet d'adresses. En effet, le capital social de ces personnes est incontournable, d'où leur trajectoire qui passe très souvent par la politique, parce qu'en ayant été à l'intérieur du système politique, ils ont à la fois acquis des compétences, mais surtout compris qu'il y avait énormément de relationnels et ils savent trouver les bonnes personnes. Mais ce carnet d'adresses se dévalue assez rapidement, il faut l'entretenir. Ça, c'est la première ressource. La deuxième ressource, je l'ai esquissé, c'est les compétences requises. Qu'est-ce qu'il y a comme compétences requises ? La langue. Il faut absolument manier la langue politique dans tout ce qu'elle a de subtil et de complexe, que des citoyens trouvent souvent très très caricatural, l'expression langue de bois ou les éléments de langage qui sont aujourd'hui bien connus. Cette langue, il faut pouvoir la manier parce que si on ne met pas en forme les intérêts conformément à la langue politique, on a assez peu de chances d'être compris par les politiques. La troisième catégorie de ressources, c'est tout ce qui a rapport à comment est-ce qu'on se comporte avec les politiques ? Comment est-ce qu'on comprend ce qu'ils attendent ? Comment est-ce qu'on interagit avec eux ? Qu'est-ce que c'est que le maniement des codes informels ? Et ça, vous voyez que ça nécessite aussi de les avoir côtoyés, peut-être pas forcément en interne, mais en tout cas d'être capable de s'ajuster. Ce qui fait que les lobbyistes, si je résume, ils ont à la fois un carnet d'adresses, des compétences très très fortement politiques et, ce que dirait un sociologue, un habitus... à la Bourdieu, un habitus très très proche de l'habitus politique. Est-ce que ça s'acquiert dans des formations ? Bien, très largement, il y a un gros pôle qui sort des formations Sciences Po, IEP, cursus de sciences politiques. Et il y a aussi un gros pôle qui se forme grâce à des modules de formation continue qui sont désormais disponibles ou qui se forment sur le tas parce qu'il y a beaucoup de communicants, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de diplômés, après ça, des diplômes techniques qui se forment au lobbying durant leur carrière pour représenter institutionnellement leur entreprise, leur secteur d'activité et qui le font dans ces cycles de formation continue.
Alors, quand on pense lobbying, on pense bien sûr influence et parfois, on imagine corruption.
Oui. Alors, on l'imagine de façon encore, je dirais, mieux fondée que des organisations internationales ont fait énormément de tapage autour de la lutte contre le lobbying et la corruption. Sauf que ces organisations internationales, OCDE notamment et Conseil de l'Europe, l'ont fait en désignant et en essayant de lutter contre la politique des pays développés à l'égard des pays sous-développés, ou des rapports nord-sud, ou des rapports est-ouest. Et donc là, on a repris à notre propre compte dans la vie politique française quelque chose qui est un enjeu international pour moraliser les relations entre les ex-empires et les autres, et pour faire en sorte que on ne ferme pas les yeux en tant que puissance occidentale quand on négocie avec des pays d'Afrique notamment ou d'Asie du Sud-Est. Et là, il y a un vrai enjeu. Les luttes d'influence au niveau international, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'elles pourraient passer par la corruption alors qu'au niveau national, on essaye de contrôler tout ce qui est financement de la vie politique. Et vous voyez que pour le cadre hexagonal, moi, avec mes 20 ans de recherche, j'ai vu des affaires. Mais les affaires que j'ai vues, tout le monde les avait vues. Au niveau bruxellois, au niveau national. C'est quand même pas la grande norme. Le financement de la vie politique, les personnes morales n'y ont plus accès. Alors on sait qu'il y a en même temps une hypocrisie et des systèmes de financement qui sont certainement pas aussi légaux que ça. Mais les mettre sur le dos des lobbyistes professionnels, certainement pas. En revanche, fermer les yeux sur les jeux internationaux d'influence, là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Le truc bizarre qui s'est passé, c'est qu'on a pris ce que disaient ces organisations internationales pour argent comptant au niveau national. Et on s'est mis à fantasmer des relations de corruption et d'influence entre les groupes d'intérêt et les pouvoirs publics sur le volume de « c'est de la corruption ». Alors que la corruption, il y en a, hein, et la loi Sapin porte aussi la création, la remise en place d'un dispositif de lutte contre la corruption. Mais ce n'est pas en allant chasser sur les terres du lobbying qu'on va trouver les plus gros dossiers de corruption.
Alors, il y a depuis quelques années maintenant, hein, à cause d'affaires diverses, on ne va pas toutes les citer, il y en a trop maintenant. Hein, au début, il n'y en avait pas trop. Mais... Donc l'opinion publique quand même réagit assez fortement et les politiques derrière créent de nouvelles lois de moralisation de la vie publique et notamment de la vie politique et aussi de la vie de la représentation nationale. Est-ce que ces lois, elles sont dans le bon sens maintenant, on peut dire que citoyennement, elles sont intéressantes. Est-ce que le fait de supprimer au maximum toutes ces contraintes. Tout à l'heure, on parlait d'aborder des marchés extérieurs, par exemple, où d'autres pays ont peut-être encore des pratiques où la corruption règne en maître et peut-être qu'ils arriveraient plus facilement à avoir des marchés que nous avec notre belle morale.
Mmh. Alors, je vais rester là au niveau national. Au niveau national, on a énormément à progresser. Plus tellement dans le périmètre du système parlementaire parisien, si j'ose dire, et des cabinets ministériels. On a à progresser surtout dans les statuts des professionnels qui sont concernés. Ça, c'est un élément qui n'est pas encore du tout clair. Il n'y a pas de statut professionnel pour les métiers du lobbying. Il n'y a que des statuts partiels des élus. Et il faut qu'on aborde les différents professionnels de la politique, que ce soit en tant qu'élu, en tant que ministre, en tant que membre de cabinet, il faut qu'on les réaborde. Il y a des questions qu'on énonce à travers la thématique des conflits d'intérêts, qui sont des questions de gestion de carrière sur le long terme, et on doit absolument revenir sur le déroulé de carrière des anciens élus, surtout avec la réforme constitutionnelle qui s'amorce et la limitation dans le nombre du cumul des mandats. Ça, c'est vital. Parce que sinon, on va emballer la machine avec un phénomène que les Américains appellent le « revolving door », qui est ce phénomène que moi, j'ai appelé la circulation des élites. Le « revolving door », c'est la reconversion dans les métiers du lobbying des élus battus. C'est des reconversions très, très marginales quantitativement, parce qu'il y a très peu d'élus battus aux États-Unis, mais qui, en effet, ont une propension à trouver dans les métiers du lobbying, eh bien, du fait de leur carnet d'adresse et de leurs compétences, une terre de repli. Et là, il y a vraiment des questions éthiques. C'est-à-dire, peut-on représenter institutionnellement les intérêts qu'on a gérés la veille ? En France, les hauts fonctionnaires sont concernés. Il y a des commissions d'éthique qui surveillent. Pour les élus, ce n'est pas encore le cas. Et pour les lobbyistes, ce contrôle est un autocontrôle. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de statut et qu'ils ne sont pas insérés dans des dispositifs de contrôle, c'est eux-mêmes qui surveillent et inventent leur propre charte. Donc, il y a vraiment à progresser de ce point de vue-là. Mais, là, j'étais sur le microcosme parisien, je pense que le plus grand pas à faire, c'est au niveau de la vie politique locale. On ne peut plus avoir un rapport angélique au marché public. Il se joue vraiment énormément de choses dans la vie politique, en termes de passation de marché public, en termes de respect de cette réglementation, et on ne peut pas, si on veut vraiment moraliser la vie politique, laisser de côté tout ce qui a à voir avec l'obtention des surfaces pour pouvoir exercer, franchiser, avec la construction des stades, avec l'installation des parcs éoliens, avec etc. Parce que là, on est sur du lourd.
Même les hypermarchés, etc.
Oui, tout à fait.
Donc, le citoyen là-dedans, est-ce qu'il a des clés de compréhension? Est-ce qu'il a des capacités d'action?
Alors, le citoyen, comme dans pratiquement tous les territoires de la République, il est soit intéressé par la vie politique et il a les clés parce qu'il lit la presse, s'intéresse à la politique et dépend de la presse pour cette information, soit il ne s'informe pas. Et là, on est dans le domaine du rapport à la politique des citoyens. C'est-à-dire que plus on va vers les milieux des classes moyennes, des classes populaires, plus ce rapport à la politique est distant. Et dans les classes dites élevées, favorisées et diplômées, ce rapport est médiatisé, donc il dépend du biais que la presse implique, donc ce n'est pas beaucoup mieux. J'ai signalé tout à l'heure qu'il y avait des ONG qui étaient désormais les spécialistes de la question et qui ont pris la main sur une partie de ces réglementations en offrant aux citoyens des informations. Alors là, je dirais qu'il y a débat. C'est une des grandes avancées. Les citoyens peuvent, grâce à ces ONG, être au courant de l'activité politique et aussi du lobbying. Par exemple, on peut suivre l'application de la loi. Il y a l'application de ce qu'on appelle la traçabilité qui est lancée par ces ONG. On peut suivre donc qui intervient sur la loi à la trace. On sait aussi quels sont les parlementaires qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, etc. Bien. Mais... et c'est là où j'introduis le débat, ces ONG, je trouve qu'elles ont une pédagogie qui est un peu celle du pompier pyromane. C'est-à-dire qu'elles informent un citoyen qui peut avoir des doutes légitimes sur ce qu'est la politique et qui sort renforcé sur la pertinence des doutes qu'il avait au départ. C'est-à-dire qu'en gros, il apprend que la situation est pire que ce qu'il croyait. Parce qu'elles alertent, parce qu'elles alarment sur systématiquement des faits qui sont considérés comme négatifs. Je donnerai un exemple. Transparency France publie un indicateur qui est un indice de corruption. Cet indice de corruption place la France en 23e position dans les pays qui sont référencés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 23e rang? Pas grand-chose, parce que l'indice, c'est un sondage de 1000 citoyens qui ont dit comment est-ce qu'ils percevaient la corruption en France. Mais on ne pourrait pas informer les citoyens sur l'état de l'activité des agences qui luttent contre la corruption et sur l'état du contentieux réel de la corruption, plutôt que de faire un indice qui ne vaut que ce que vaut un sondage. Et ce que vaut un sondage en France, je suis très très dubitatif. Donc voilà, le côté pyromane qui veut a priori éteindre le feu dans le système politique, je trouve qu'il l'allume en même temps.
Non, on assiste aussi à... on va dire des nouvelles pratiques, celles des lanceurs d'alerte. Mmh. On a bien connu Wikileaks, c'est ce qui en est suivi. Hein. Est-ce que ces lanceurs d'alerte-là ont, par rapport à ces problématiques de lobbying, changé la donne d'une certaine manière, voire même ont fait réagir ces lobbyistes pour s'adapter aussi à moins de transparence dans la transparence?
Alors déjà, ils ont changé la donne parce que la loi Sapin dont on vient de parler abondamment a trois volets, un volet corruption, lobbying et un volet sonneur d'alerte. Donc elle les concerne en même temps que les autres. Là où je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant et qui n'est pas du tout fini, c'est qu'on voit avec les lanceurs d'alerte un phénomène qui est hyper important, c'est la capacité d'imposer au système politique des enjeux et des éléments que le système politique essayait d'enfouir sous le tapis, de ne pas rendre visible et de ne pas débattre dans l'espace public. Mais on a également toute la mise en danger de ces personnes, d'où, via la loi Sapin, justement, des dispositifs pour essayer de les protéger et de sécuriser ce rôle. Néanmoins, j'en reviens à cette extraordinaire fenêtre que ça ouvre, c'est qu'on voit enfin des personnes qui interviennent pour imposer un enjeu et une information dans le champ politique. Eh bien ça, c'est un petit peu à l'origine ce que les Américains avaient voulu faire quand ils ont créé leur première loi sur le lobbying, ce qu'on appelle le Lobby Act, qui date de 1946. Ils avaient voulu faire en sorte que toutes les voix puissent s'exprimer, ce qui n'est pas le cadre de la réglementation française. Et, autre élément, ils souhaitaient que l'on puisse avoir un agenda qui ne soit pas un agenda uniquement imposé par les politiques, mais qu'on ait un agenda du... Alors, ils appellent ça l'agenda du lobbying, c'est-à-dire un agenda qui ait des enjeux, qui soient vraiment les enjeux dont les citoyens se soucient. Et en 2012, avec des collègues, on a suivi l'élection présidentielle et on a exhumé cet agenda. On a pris tout ce qui rentrait dans les QG de campagne des candidats et on a vu tout ce que les candidats n'écoutaient pas et auquel ils ne répondaient pas. Eh bien, tout ce qui remontait de la société française montrait des enjeux qui étaient des enjeux sur lesquels l'alerte était donnée. La santé, la justice, les discriminations, les inégalités. Volumineux et absolument pas entendu, écouté. Et quand on prend ces dossiers aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'on est au cœur du gros, du lourd, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui dérape. Et je pense qu'il faudrait commencer à s'intéresser à tout ce phénomène, certes à travers la protection des sonneurs d'alerte, mais à travers l'alerte qui est donnée, c'est-à-dire de tout ce que les politiques n'écoutent pas, mais qu'ils auraient pourtant apporté, qu'ils auraient pourtant demandé, qu'ils auraient transmis. Ils ont toutes ces données, sauf qu'elles ne sont souvent pas conformes à leurs attentes, pas mises en forme telles qu'ils le souhaiteraient, et pas inscrites ou possiblement traitables dans leur propre agenda. Et avec les sonneurs d'alerte, on a eu cette fenêtre qui s'ouvre pour dire qu'il y a d'autres agendas que le seul agenda politico-médiatique.
Alors, est-ce que dans ce retard, on va dire, du moins dans l'écoute des problèmes, sinon la mise sur table aussi de ces problèmes, tout cela, ça n'a pas finalement fait le jeu des populismes ?
C'est-à-dire que ça, oui, ça aide, ça permet, mais je dirais que la galaxie du populisme est tributaire de l'état du champ politique, mais pas tellement de ce décalage. Je pense qu'ils sont vraiment dans une nébuleuse où ils ont leur propre conception de ce qui dysfonctionne dans le politique et qu'ils ne se soucient pas tellement de toutes ces ONG, de toutes ces organisations. Quand en 2012, on a donc travaillé sur tous les candidats, Marine Le Pen, elle a une conception tellement clivée, tellement normée de ce que sont les acteurs légitimes de la société qu'elle est encore moins à l'écoute que ceux qui essayent d'avoir les infos et qui ne répondent pas. Mais au moins, ils essayent d'avoir les infos. Elle a vraiment une conception très, très arrêtée sur ce qui est légitime et ne l'est pas dans la société française. Donc ça vient mettre des censures énormes. Alors c'est peut-être là une des formes du populisme, c'est d'avoir une conception de ce qu'est la société telle qu'elle doit s'énoncer. Et c'est encore plus drastique et censurant que ne le sont les autres politiques.
Donc, à cette époque, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? Est-ce que c'est de l'information ? Est-ce que c'est inciter à l'action ? Rejoindre des mouvements qui sont humanistes, pour le coup ?
Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Si c'est la méconnaissance du système politique des citoyens, il faut réformer les journalistes. Ça, il faut vraiment faire en sorte que l'information ne soit pas à ce point déformée par les cadres qu'ils utilisent. Et il y a vraiment un débat à avoir avec les journalistes sur les cadres qu'ils mettent en avant et des journalistes qui sont hyper écoutés et vus. Hein. Je ne veux pas faire de polémique très rapide, mais Élise Lucet, c'est quand même la quintessence du cadre qui informe autant qu'il déforme les faits dont elle rend compte. Parfois, c'est très utile, mais parfois, ça produit une déformation complète des faits qui sont concernés. Après, l'autre objectif, si c'est la méconnaissance des citoyens qu'on veut corriger, c'est aussi des protocoles de formation, d'ouverture de nos dispositifs, d'accueil des citoyens dans des cycles de formation, d'en finir avec la distance entre l'université, la recherche et les populations qui sont concernées. Même si ça, c'est peut-être un enjeu qui est très très difficile à remplir. Le troisième point, c'est le potentiel des organisations elles-mêmes. On peut parfaitement se mettre à disposition des ONG et dire que le lobbying n'est pas l'arme des riches. que ce sont des pratiques qui sont accessibles à beaucoup de personnes. Le tout, c'est de s'en donner déjà la perspective et un petit peu les moyens, mais le premier des moyens, c'est d'y être attentif et de ne pas considérer que c'est un truc pourri qui corrompt et qui ne sert à rien.
Voilà, je pense qu'on en sait un peu plus maintenant sur le lobbying, son importance et son influence. Ce livre, donc, Le lobbying en France, fait l'état de recherche, mais aussi de perspective.
J'espère.
Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Donc, je rappelle, Guillaume Courty, que vous êtes auteur de ce livre, Lobbying en France, et que vous êtes professeur à l'Université de Lille. Merci beaucoup.
Merci à vous.